Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
C'est que nous pêchions à lire, toi. C'est que nous pêchions à lire tout le temps.
Je te signale que ton père te parle.
Hein? Si nous pêchions à lire tout le temps, qui c'est quoi son... Ursonar, Adrien, c'est quoi ça? C'est quoi ton Adrien?
C'est un empereur romain.
Yosena, c'est un empereur romain?
Non, Adrien.
Oui, le bandit, hein, ça va, hein?
T'as qu'à répondre aussi?
Hein, qui c'est qui a taillé la haie, là? Qui c'est qui a taillé? C'est ton Yosena qui a taillé la haie? Bon, alors.
Bonjour Gonzalo.
Comment te portes-tu ?
Je me porte très bien.
Quel auteur vas-tu nous présenter ?
Je vais vous présenter Marguerite Yourcenar avec un roman qu'elle a écrit il y a longtemps déjà, c'était en 51. Et c'est donc Mémoire d'Adrien. C'est un grand roman du XXe siècle qui a marqué ma vie. Et je l'ai lu en fait la première fois quand j'avais 18 ans. Je l'ai relu récemment et j'ai eu envie de vous faire partager cette lecture. En fait, ça a été un plaisir de le relire, comme je disais, et notamment le plaisir de sentir le dédale du temps, ses couloirs et ses passages secrets. Ce livre vraiment ouvre les portes du temps. J'ai retrouvé mes 18 ans en le lisant, et surtout j'ai retrouvé le deuxième siècle après Jésus-Christ, pendant lequel vécut l'empereur Adrien, mais aussi des pensées éclairantes sur le temps et les pouvoirs de l'écriture. En fait, dans Mémoire d'Adrien, Marguerite Yourcenar fait revivre cet empereur qui stabilisa l'immense empire romain en instaurant la Pax Romana. Elle le fait vivre par l'emploi de la première personne. Nous lisons les mémoires que l'empereur aurait pu écrire au seuil de sa mort. L'auteur se fait magicienne, pareille aux sorcières que l'on retrouve dans le livre et dont Adrien aimait s'entourer, pareil à Adrien avec son amant, elle fait revenir le défunt de l'autre rive, elle lui donne vie en lui donnant voix. Pour y parvenir, elle a élaboré une méthode de délire qui s'accompagne d'une érudition immense accumulée pendant les années de maturation et d'écriture du projet, qui ont duré en tout de 1924 à 1951. Elle écrit ainsi dans son carnet de notes sur Mémoire d'Adrien, un pied dans l'érudition, l'autre dans la magie, ou plus exactement et sans métaphore, dans cette magie sympathique qui consiste à se transporter en pensée à l'intérieur de quelqu'un. Le roman commence sous forme de lettres, avec l'adresse à Marc Aurel, alors âgé de 17 ans, choisi par Adrien pour lui succéder. Donc ça commence par « Mon cher Marc ». Et dès le deuxième chapitre, le projet se précise. Je vais lire donc un premier extrait. Peu à peu, cette lettre commençait pour t'informer des progrès de mon mal est devenue les délassements d'un homme qui n'a plus l'énergie nécessaire pour s'appliquer longuement aux affaires d'État. La méditation écrite d'un malade qui donne audience à ses souvenirs. Je me propose maintenant davantage. J'ai formé le projet de te raconter ma vie. À coup sûr, j'ai composé l'an dernier un compte-rendu officiel de mes actes, en tête duquel mon secrétaire Flégon a mis son nom. J'y ai menti le moins possible. L'intérêt public et la décence m'ont forcé néanmoins à réarranger certains faits. La vérité que j'entends exposer ici n'est pas particulièrement scandaleuse, ou ne l'est qu'au degré où toute vérité fait scandale. Je ne m'attends pas à ce que tes 17 ans y comprennent quelque chose. Je tiens pourtant à t'instruire, à te choquer aussi. Tes précepteurs que j'ai choisis moi-même t'ont donné cette éducation sévère, surveillée, trop protégée peut-être, dont j'espère somme toute un grand bien pour toi-même et pour l'État. Je t'offre ici comme correctif un récit dépourvu d'idées préconçues et de principes abstraits, tiré de l'expérience d'un seul homme qui est moi-même. J'ignore à quelle conclusion ce récit m'entraînera. Je compte sur cet examen des faits pour me définir, me juger peut-être, ou tout au moins pour me mieux connaître avant de mourir. Comme tout le monde, je n'ai à mon service que trois moyens d'évaluer l'existence humaine. L'étude de soi, la plus difficile et la plus dangereuse, mais aussi la plus féconde des méthodes. L'observation des hommes, qui s'arrangent le plus souvent pour nous cacher leurs secrets ou pour nous faire croire qu'ils en ont. Les livres, avec les erreurs particulières de perspective qui naissent entre leurs lignes. J'ai lu à peu près tout ce que nos historiens, nos poètes et même nos conteurs ont écrit, bien que ces derniers soient réputés frivoles. Et je leur dois peut-être plus d'informations que je n'en ai recueillies dans les situations assez variées de ma propre existence. La lettre écrite m'a enseigné à écouter la voix humaine, tout comme les grandes attitudes immobiles des statues m'ont appris à apprécier les gestes. Par contre, et dans la suite, la vie m'a éclairci les livres. Mais ceux-ci mentent, et même les plus sincères. force de ce roman est aussi d'offrir une longue méditation sur la vie et sur les questions les plus ardentes qui habitent tout homme. Elles font de cet empereur du IIe siècle un être aussi proche de nous que peut l'être un père ou un frère. Comme nous, il se questionne sur l'univers, sur le pouvoir, sur la liberté, l'amour et la mort. Il le fait à hauteur d'homme, mais sa vie singulière transcende ces questions. En effet, il est parvenu à la tête du plus grand empire du monde et y a instauré la paix et la prospérité économique pendant plus de 15 ans. C'était un empereur lettré, philhellène, c'est-à-dire passionné par la Grèce, qui était initié à différentes philosophies et surtout au mystère d'Éleusis, un culte mystique aujourd'hui disparu. Il est en quête de sens à travers la philosophie, les rituels mystiques et les astres. Sa conception de la liberté se développe ainsi dès le début du livre, alors qu'il s'adresse à Marc Aurèle, connu pour être un philosophe stoïque. Il n'y a qu'un seul point sur lequel je me sens supérieur au commun des hommes. Je suis tout ensemble, plus libre et plus soumis qu'ils n'osent l'être. Presque tous méconnaissent également leur juste liberté et leur vraie servitude. Ils maudissent leur fer, ils semblent parfois s'en vanter. D'autre part, leur temps s'écoule en vaine licence. Ils ne savent pas se tresser à eux-mêmes le joug le plus léger. Pour moi, j'ai cherché la liberté plus que la puissance. Et la puissance seulement parce qu'en partie, elle favorisait la liberté. Ce qui m'intéressait n'était pas une philosophie de l'homme libre, tout ce qui CSM ennuyèrent, mais une technique. Je voulais trouver la charnière où notre volonté s'articule au destin, où la discipline seconde, au lieu de la freiner, la nature. Comprends bien qu'il ne s'agit pas ici de la dure volonté du stoïque dont tu t'exagères le pouvoir, ni de je ne sais quel choix ou quel refus abstrait qui insulte aux conditions de notre monde plein, continu, formé d'objets et de corps. J'ai rêvé d'un plus secret acquiescement ou d'une plus souple bonne volonté. La vie m'était un cheval dont on épouse les mouvements, mais après l'avoir, de son mieux, dressé. Tout en somme étant une décision de l'esprit, mais lente, mais insensible, et qui entraîne aussi l'adhésion du corps, je m'efforçais d'atteindre par degrés cet état de liberté ou de soumission presque pure. La gymnastique m'y servait. La dialectique ne m'y nuisait pas. Je cherchais d'abord une simple liberté de vacances, des moments libres. Toute vie bien réglée à les siens, et qui ne sait pas les provoquer ne sait pas vivre. J'allais plus loin. J'imaginais une liberté de simultanéité, où deux actions, deux états seraient en même temps possibles. J'appris par exemple, me modelant sur César, à dicter plusieurs textes à la fois, à parler en continuant à lire. J'inventais un mode de vie où la plus lourde tâche pourrait être accomplie parfaitement sans m'engager tout entier. En vérité, j'ai parfois osé me proposer d'éliminer jusqu'à la notion physique de fatigue. À d'autres moments, je m'exerçais à pratiquer une liberté d'alternance. Les émotions, les idées, les travaux devaient à chaque instant rester capables d'être interrompus, puis repris. Et la certitude de pouvoir les chasser ou les rappeler comme des esclaves leur enlevait toute chance de tyrannie, et à moi tout sentiment de servitude. Je fis mieux. J'ordonnais toute une journée autour d'une idée préférée que je ne quittais plus. Tout ce qui aurait dû m'en décourager ou m'en distraire, les projets ou les travaux d'un autre ordre, les paroles s'emportaient, les mille incidents du jour prenaient appui sur elles comme des pampres sur un fût de colonne. D'autres fois, au contraire, je divisais à l'infini. Chaque pensée, chaque fait était pour moi rompu, sectionné en un fort grand nombre de pensées ou de faits plus petits, plus aisés à bien tenir en main. Les résolutions difficiles à prendre s'émiettaient en une poussière de décisions minuscules, adoptées une à une, conduisant l'une à l'autre et devenues de la sorte inévitable et facile. Mais c'est encore à la liberté d'acquiescement, la plus ardue de toutes, que je me suis le plus rigoureusement appliquée. Je voulais l'état où j'étais. Dans mes années de dépendance, ma suggestion perdait ce qu'elle avait d'amère, ou même d'indigne, si j'acceptais d'y voir un exercice utile. Je choisissais ce que j'avais, m'obligeant seulement à l'avoir totalement et à le goûter le mieux possible. Les plus mornes travaux s'exécutaient sans peine, pour peu qu'il me plût de m'en éprendre. Dès qu'un objet me répugnait, j'en faisais un sujet d'étude. Je me forçais adroitement à en tirer un motif de joie. En face d'une occurrence imprévue ou quasi désespérée, d'une embuscade ou d'une tempête en mer, toutes les mesures concernant les autres étant prises, je m'appliquais à faire fête au hasard, à jouir de ce qu'il m'apportait d'inattendu, et l'embuscade ou la tempête s'intégrait sans heurts dans mes plans ou dans mes songes. Même au sein de mon pire désastre, j'ai vu le moment où l'épuisement enlevait à celui-ci une part de son horreur, où je le faisais mien en acceptant de l'accepter. Si j'ai jamais à subir la torture, et la maladie va sans doute se charger de m'y soumettre, je ne suis pas sûre d'obtenir longtemps de moi l'impassibilité d'un traséas. Mais j'aurais du moins la ressource de me résigner à mes cris. Et c'est de la sorte, avec un mélange de réserve et d'audace, de soumission et de révolte soigneusement concertée, d'exigences extrêmes et de concessions prudentes, que je me suis finalement acceptée moi-même.
J'avais même écrit le livre sous une forme dialoguée, à la Gobineau, en quelque sorte, complète. Ça m'a paru impossible pour une raison ou pour une autre, quoiqu'il y avait des passages qui n'étaient pas si mal que ça, je l'ai jeté. J'ai essayé sous la forme d'un essai, et je l'ai abandonné, parce que ça demandait une érudition très, très développée sur un point, sur quelques points, que je n'avais pas. C'est possible. Mais en tout cas, il y a des aspects de lui qui sont très différents de celui du roman habituel. Il y a sa sobriété, il y a sa passion de la chasse que je suis loin de partager, mais qui fait déjà de lui le prédécesseur d'un Habsbourg, presque. Il y a sa passion du deuil, c'est une espèce de frénésie sombre. C'est tombé dans la fantaisie et dans le roman, et dans la poésie plus ou moins imaginaire, penser aux vêtements noirs de l'Espagne du XVIe siècle. Mais tout de même, le seul homme qui ait pris le deuil pour une impératrice, Plotine, la femme de son prédécesseur, le seul homme qui a élevé le grand tombeau à des morts du passé et aussi à des morts de son temps, et le seul homme qui ait eu un culte presque insensé pour un ami mort pendant 9 ans, elle s'est préoccupée de multiplier ses portraits au point que nous n'avons aucun personnage d'autre de l'Antiquité autant de portraits que dans des noces. Donc il a été un grand prince, et il a été un prince extraordinairement individuel.
N'empêche pas que Adrien termine sa vie sur un échec, et quel échec, parce que la République de la Palestine, il va l'écraser dans le sang, il va raser.
Il y a pour Adrien une période de pénombre, lorsqu'il est jeune officier, lorsqu'il fait la guerre, lorsqu'il accepte, il est bien obligé de le faire, la politique de son prédécesseur. Mais nous ne savons pas grand-chose sur cette époque, et lui-même, en quelque sorte, l'a presque oublié, une fois arrivé au pouvoir. Mais c'est tout de même une période dans laquelle nous ne le voyons pas dans le détail, on nous modifie tous, nous apprenons. Ouais. C'est ce qu'il y a d'ailleurs de si faux lorsqu'on s'imagine que un personnage, c'est nous. Si c'était nous, il serait aussi pauvre que nous. C'est-à-dire, il aurait nos mêmes limites. L'important est d'avoir un personnage qui nous apprenne quelque chose dont le tempérament, dont la vie soit assez différente pour que nous ayons en quelque sorte des rallonges.
We're stuck here with the Minute Maids, with the Littletons. War is coming. We're stuck here with the Minute Maids, with the Littletons. War is coming, and we're stuck here. Here with the Minute Maids, with the Littletons. Hearts once open and now closing down. They wanna get even, want the Joker, one threat is smearing all over me. No one to notice, recognize me, no call for an all, and can wash it all away. For here we must be, for here we must stay. Always, I try always to disappear, it's not enough to die, no. And we're stuck here, here with the Minute Maids, where the letters are bigger pictures, is where we belong. All together, that's every strongest body of mine. This humanity is what I love, what I hate me. No escaping, no way out, no running away. For here we must be, for here we must stay. Always will I try, always to disappear. It's not enough to die, no. It's not enough to die.
Dans sa vie personnelle, Adrien connut un amour tragique, qui fait aussi de mémoire d'Adrien un grand roman d'amour. Adrien aimait Antinoos, un jeune bithynien dont on a conservé plus de portraits dans le monde que n'importe quel philosophe ou chef d'État. La figure d'Antinoos occupe tout le livre, mais la période de bonheur partagée avec Antinoos en constitue la cime, l'apogée, d'ailleurs placée dans la partie intitulée Saeculum Aureum, le siècle, la période d'or. Cet apogée se matérialise lors de l'ascension de l'Etna, que je vais vous lire. C'est un très beau passage, au centre du livre. J'avais entendu parler des irisations surprenantes de l'aurore sur la mer d'Ionie, contemplée du haut de l'Etna. Je décidai d'entreprendre l'ascension de la montagne. Nous passâmes de la région des vignes à celle de la lave, puis de la neige. L'enfant aux jambes dansantes courait sur ces pentes difficiles. Les savants qui m'accompagnaient montèrent à dos de mule. Un abri avait été construit au faîte pour nous permettre d'y attendre l'aube. Elle vint. Une immense écharpe iris se déploya d'un horizon à l'autre. D'étranges feux brillèrent sur les glaces du sommet. L'espace terrestre et marin s'ouvrit au regard jusqu'à l'Afrique visible et la Grèce de Vigny. Ce fut l'une des cimes de ma vie. Rien n'y manqua, ni la frange dorée d'un nuage, ni les aigles, ni les chansons d'immortalité. Saison alcyonienne, solstice de mes jours. Loin de surfaire mon bonheur à distance, je dois lutter pour n'en pas affadir l'image. Son souvenir même est maintenant trop fort pour moi. L'histoire d'amour présente dans ce livre n'est pas un décor, elle n'est pas un élément romanesque artificiellement ajouté. Au contraire, elle fait partie intégrante de ce que fut Adrien. Elle est l'expérience limite qui le conduit aux frontières de la mort et lui permet de se dépasser lui-même dans un dernier mot d'ordre, patientia. La patience, c'est vraiment un mot qui a guidé la fin de son règne et qui est la dernière partie de ce livre. I don't need no rising moon. I don't need no ball and chain. I don't need anything but you. Such a shame, shame, shame. Shadow of love. You changed my life. We were as green as grass, and I was hypnotized from the first to the last kiss. All shame, shame. Shadow of love. I jump for you into the fire. I jump for you into the flame. Try to go forward with my life, but just feel shame, shame, shame. Shame, shame. Shame, shame is the shadow of love. If you tell a lie, I still would take the blame. L'importance de l'amour intrinsèquement lié à l'écriture est suggérée par Marguerite Yourcenar dans son carnet de notes. Elle écrit donc « Je passe sous silence les expériences de la maladie et d'autres, plus secrètes qu'elles entraînent avec elles, et la perpétuelle présence ou recherche de l'amour. » Nous pouvons sentir à travers ces extraits combien ce roman, qui est à la fois roman historique, pseudo-autobiographie, roman d'amour et méditation philosophique, laisse place parfois à des moments de prose poétique. Or, Marguerite Yourcenar, comme Adrien, écrivait des poèmes. Elle place dans la bouche d'Adrien les propos suivants. « Je ne suis pas sûre que la découverte de l'amour soit nécessairement plus délicieuse que celle de la poésie. Celle-ci me transforma. L'initiation à la mort ne m'introduira pas plus loin dans un autre monde que tel crépuscule de Virgile. » Certaines images qui habitent ce livre continuent de nous hanter longtemps après sa lecture. Ainsi ces phrases que j'avais soulignées jadis et qui ne m'ont jamais quittée. Mais aucune caresse ne va jusqu'à l'âme. Ce cadavre et moi partions à la dérive, emporté en sens contraire par deux courants du temps. Encore, tout croulait, tout parut s'éteindre. Le dieu olympien, le maître de tout, le sauveur du monde s'effondrèrent, et il n'y eut plus qu'un homme à cheveux gris sanglotant sur le pont d'une barque. Et une petite dernière, je ne savais pas que la douleur contient d'étranges labyrinthes où je n'avais pas fini de marcher. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ou relire ce magnifique roman de Marguerite Yourcenar.
posé sur le sol. Elle fait les 100 pas. Dans son appartement, elle joue avec son chat. Rallume une cigarette. Pose un vinyle sur la platine.
Lorsque tu l'as relu, tu expliquais en avant-propos que tu avais relu ce livre. Qu'est-ce qui t'a encore ému ?
Alors j'ai retrouvé l'histoire d'amour qui m'avait beaucoup touchée quand j'avais 18 ans. C'est une histoire d'amour homosexuelle, mais elle est vraiment éternelle et voilà, elle dépasse toute contingence, quoi. Voilà, elle peut toucher vraiment n'importe qui. Et j'avais été touchée aussi par la dimension philosophique. Il y a des vraies questions qui me travaillent encore et qui me travailleront jusqu'au bout, je pense.
Et que dire de Marguerite Yourcenar ?
Bah, c'est une immense écrivain. C'est la première femme à être entrée à l'Académie française. Et oui, elle est vraiment en recherche d'une écriture. Elle fait un travail qui me touche parce qu'il est à la fois, elle a à la fois un pied dans c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Elle est à la fois très savante. Elle fait beaucoup de recherches. Là, c'est très documenté. Les grands historiens ont vraiment reconnu cette œuvre comme étant d'une grande qualité historique. Et en même temps, elle touche à l'occulte. D'ailleurs, il est beaucoup question d'occulte dans ce texte, parce qu'Adrien s'intéressait aux arts divinatoires, etc. Et donc, elle-même, elle a l'impression de parler à Adrien. Elle le respecte infiniment, donc elle ne s'adresse pas à lui comme elle s'adresse à Zénon, à un autre grand personnage dans l'œuvre noire. Mais vraiment, ces personnages vivent avec elle, ils l'accompagnent. Et elle se sent aussi proche d'eux que de n'importe quel être humain, en fait. C'est assez troublant, ce rapport à l'écriture et au personnage. Ouais.
Mélanie, merci.
De rien.
Thank you.